Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Hélène Destombes.
Bonsoir. Les critiques des États-Unis et de l'ONU n'y ont rien changé. La Malaisie a expulsé ce mardi plus de 1000 migrants birmans. Une décision prise en dépit d'un arrêt qui ordonnait la suspension de ce transfert 3 semaines après le coup d'État par les militaires en Birmanie. Les précisions de Gabriel Maréchaux.
Certains ont dû partir en découvrant à peine ce qui les attendait. James Boy Tongbi, qui à la tête de l'Alliance des réfugiés de Chine, a dû annoncer une bien mauvaise nouvelle à certains membres de cette minorité ethnique chrétienne sur le point d'être expulsés.
L'immigration leur a donné le droit de passer un coup de fil pour contacter leur famille. Mais ils n'ont plus de famille, donc ils m'ont appelé. Certains d'entre eux sont en détention depuis un an, donc ils ne savent pas ce qui se passe en Birmanie.
Donc c'est vous qui leur avez dit qu'il y avait un coup d'État ?
Oui, et ils m'ont dit que dans ce cas, on préfère rester en prison, car ils ont grandi sous la loi martiale. Ils viennent d'une région où il y a des conflits armés. Leurs villages ont été détruits, donc s'ils rentrent, ils diront où.
Pour Phil Robertson, à la tête de Human Rights Watch en Asie, une chose est sûre, ces hommes et femmes ne seront pas en sécurité en arrivant en Birmanie.
La junte militaire est connue pour persécuter ceux qui ont quitté leur pays sans autorisation, et il faut s'attendre à ce que ces personnes qui sont renvoyées connaissent le pire. Dans le passé, par exemple, on a pu voir des réfugiés birmans expulsés arriver en Birmanie et être condamnés pour départ non autorisé.
Ce soir, Amnesty International a ainsi suggéré d'allumer une bougie et de poster une photo sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Les migrants sont aussi des êtres humains » écrit en malais en solidarité avec les personnes à bord du bateau militaire birman. Kuala Lumpur, Gabriel Maréchaux pour Radio Vatican.
En Birmanie, les manifestants restent mobilisés malgré les violences et la pression s'accentue sur les militaires. Les ministres des Affaires étrangères du G7 et le chef de la diplomatie européenne ont fermement condamné ce matin les violences perpétrées par les forces de sécurité birmanes. Hier, États-Unis et Union européenne avaient adopté de nouvelles sanctions contre les militaires. Séoul et Téhéran ont trouvé un accord pour régler le contentieux lié au gel par la Corée du Sud de milliards de dollars d'argent du pétrole. Téhéran précise toutefois que ce compromis doit être validé par Washington. L'Iran fait pression depuis plusieurs mois afin que la Corée du Sud débloque plusieurs milliards gelés en raison de sanctions américaines. Le ministre iranien des Affaires étrangères confirme l'entrée en vigueur ce matin de la limitation des inspections de l'AIEA sur son programme nucléaire. La coopération se poursuivra néanmoins, précise Mohammad Javad Zarif. Le Parlement iranien avait adopté en décembre dernier une loi ordonnant de limiter certaines inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. L'est de l'Ukraine, théâtre de nouveaux affrontements entre l'armée et les séparatistes russes. Un soldat a été tué, 2 autres blessés hier aux abords de la ville d'Avdiivka, au nord de Donetsk, la capitale des forces séparatistes. Les combats qui ont repris ces dernières semaines dans cette région orientale ont débuté en 2014 à la suite de l'annexion de la Crimée par Moscou. Ils ont fait plus de 13 000 morts selon l'ONU. Toujours concernant l'Ukraine, le pays a reçu aujourd'hui les premiers vaccins contre le coronavirus. 500 000 doses du vaccin AstraZeneca sont arrivées ce matin à Kiev. Les autorités ukrainiennes ont été vivement critiquées pour le retard dans le lancement de la campagne de vaccination dans le pays, l'un des plus pauvres de l'Europe qui enregistre plus de 1,3 million de cas de Covid-19 et 25 000 décès. Les séparatistes pro-russes de l'est du pays avaient annoncé le 1er février les premières injections du vaccin russe Sputnik V, un vaccin que Kiev a interdit sur le territoire qui est sous son contrôle. Le chef de la diplomatie vaticane fait part de son inquiétude face aux dérives concernant la protection des droits de l'homme en temps de pandémie. Dans un message vidéo enregistré en marge de la 46e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Mgr Gallagher, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, soulignait que les personnes les plus vulnérables, comme les personnes âgées, les migrants, les réfugiés et les populations autochtones, ont été touchées de manière disproportionnée par la crise actuelle. Plus de précisions à l'adresse vaticannews.va. Direction à présent le Liban qui fait face à un nouveau drame. La marée noire qui ravage les côtes israéliennes depuis plusieurs jours a atteint les côtes du pays du Cèdre. L'annonce a été faite par le premier ministre sortant Hassan Diab. Plusieurs ONG de protection de l'environnement appellent les autorités à des actions immédiates pour contenir cette pollution. Les explications de Paul Ralifet.
Des tonnes de goudron poussées par des vents forts ont pollué la côte à l'extrême sud du Liban, près de la région de Ras Naqoura, qui abrite les plus belles plages du pays. Le Conseil national pour la recherche scientifique au Liban, le CNRS, tente d'évaluer la gravité de la situation. Des équipes ont prélevé des échantillons sur les plages de Tyr dans le sud afin de les analyser. D'autres ont inspecté le littoral jusqu'à la frontière libano-israélienne pour établir un rapport sur l'étendue des dégâts sur les ressources côtières et maritimes. Lundi, le Premier ministre sortant Hassan Diab a donné des instructions au ministre de la Défense et de l'Environnement ainsi qu'au CNRS pour suivre ce dossier et informer la force intérimaire des Nations Unies au Liban des résultats des inspections et des analyses. Les autorités n'ont pas encore publié des consignes de sécurité pour les Libanais, notamment en ce qui concerne la pêche et la baignade, comme l'a recommandé Greenpeace lundi. Paul Khalife, Beyrouth, pour Radio Vatican.
Retour dans notre dossier sur les 2 ans du Irak en Algérie. Les partisans du mouvement d'opposition au régime algérien ont défilé hier par milliers dans le pays, ravivant ainsi une contestation ensommeillée ces derniers mois en raison de la crise sanitaire. Face à ce mouvement populaire, le pouvoir algérien a toujours oscillé entre menaces et grâces présidentielles accordées aux détenus d'opinion. La dernière en date a lieu vendredi dernier, au lendemain de l'annonce par le président Tebboune de législatives anticipées à venir cette année. Le Irak se trouvera donc rapidement confronté au défi des urnes, une donne complexe pour l'agrégat d'aspirations contradictoires qu'il représente. L'analyse de Luis Martinez, chercheur spécialiste de l'Afrique du Nord, aux séries de Sciences Po.
C'est une forme de gouvernance politique assez ancienne. Hein. On a souvent fait cela en Algérie, on arrête et puis ensuite on prend le temps sans doute aussi de discuter en prison, de voir jusqu'où les gens qu'on a arrêtés peuvent aller. Est-ce qu'ils sont dans un radicalisme complet ? Dans ce cas, sans doute que ça sera une expulsion. On l'a vu dans le passé avec les opposants politiques, hein. Sans quoi la plupart finalement acceptent la transformation et la règle du jeu.
Comment l'opposition perçoit cette annonce de législatives anticipées ?
C'était attendu. Il y a 2 attitudes. L'opposition formelle qui espère que les élections permettront un pluralisme à l'Assemblée, un petit peu sur le mode marocain, même si c'est un pluralisme contrôlé. Et puis, il y a au sein du Hirak ceux qui s'interrogent sur le fait qu'une élection législative pour un mouvement qui n'a pas de parti politique, ça pose un problème, c'est que rejoindre les élections, ça signifie légitimer et accepter un régime qu'on dénonce comme illégitime et qu'on veut radicalement changer. Je pense que le mouvement lui-même, il est porteur de tellement d'aspirations très contradictoires, hein, et aussi, disons, mis en œuvre par des acteurs politique et civil très différent. Je ne crois pas qu'il est menacé à court terme. En revanche, il est confronté vraiment à un rouleau compresseur du régime, hein, qui consiste à dire depuis décembre, nous allons faire notre élection présidentielle, changer la constitution, faire des élections législatives anticipées, faire des élections municipales anticipées. Vous souhaitez contribuer à cela, vous y entrez dans le système. Vous ne souhaitez pas, vous restez à la marge. Mais dans ce cas, vous vous exposez à subir la contradiction de ne pas justement entre guillemets saisir la possibilité de transformer ce régime de l'intérieur.
Est-ce que la répression s'est accentuée depuis l'entrée en fonction du président Tebboune ?
Ce qui est vraiment devenu, je pense, systématique, c'est le harcèlement judiciaire. On n'hésite pas à construire des dossiers judiciaires contre celles et ceux qui enfreignent la loi. Je pense qu'en Algérie, on est un pays où la loi est enfreint depuis la naissance même de l'État. Là, on voit bien qu'on est très scrupuleux sur ceux qui peuvent enfreindre un certain nombre de règlements, de lois, qui font qu'on est soumis à une pression judiciaire assez forte. C'est un rouleau compresseur qui se sent menacé, tout simplement parce qu'il a observé en 2019 que des 2, 3, 4 millions de personnes, chaque vendredi, réclamaient un changement radical de régime et de système. Donc forcément, le régime se sent tout simplement agressé. Or, le régime considère que la rue n'exprime pas le sentiment général, et que finalement, il peut y avoir 3 ou 4 millions de démocrates dans la rue, mais si demain il y a des élections, eh bien, comme souvent, malheureusement, dans la région, les démocrates sont rarement les grands vainqueurs de ces élections. Ce sont davantage les islamistes qui peuvent les remporter. Dans la région, le pays qui manœuvre le mieux ce système compliqué, c'est le Maroc. Une monarchie qui contrôle son système politique, mais qui octroie au Parlement un pluralisme contrôlé. Et je pense que l'Algérie essaie, sans trop le dire, parce que c'est pas le pays qu'elle souhaite suivre, mais elle voit bien que c'est un chemin qui est quand même plutôt réussi, parce qu'il permet de ne pas s'exposer à des critiques internationales, et en même temps de satisfaire une partie de l'opposition gouvernée à l'Assemblée en toute légitimité et représentation.
Interrogé par Delphine Allaire, Luis Martinez était l'invité de Radio Vatican. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre écoute. Prochain rendez-vous de l'actualité internationale, vaticane et religieuse en français, demain matin à 8h30. Très belle soirée. Au revoir.